라디오 키스 파머스 땀땀 더블티오.
Le grain de sable. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le grain de sable. On reçoit aujourd'hui le collectif Classe qui travaille sur l'accès au donc collectif lyonnais pour l'accès à la scolarisation et le soutien aux enfants des squats. Donc collectif Classe qui travaille donc cet accès aux droits des enfants. Donc on reçoit Blandine et Hervé.
Henri.
Henri, je vais pas y arriver. Et donc, bah, déjà, on va vous proposer de présenter le collectif, ses origines, ses membres.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, l'association Classe est née en 2006 à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, quand on a constaté qu'il y avait des enfants qui vivaient sur un bidonville dans le quartier de la Soie à Villeurbanne. Et qui n'étaient pas scolarisés. Un suivi au niveau de la santé ou de l'accès aux droits était assuré en partie, mais personne ne s'était inquiété de la scolarisation de ces enfants. Donc c'est comme ça qu'est née l'association Classe, qui est une association, pas un collectif, avec l'objectif de permettre à ces enfants d'accéder, comme ils ont le droit, comme tous les enfants, à la scolarisation. Actuellement...
Est-ce qu'on a donné le nom entier de Classe,
oui.
En fait?
Oui, collectif oui. Lyonnais pour l'accès à la scolarisation et le soutien aux enfants des squats. Donc ce qui donne en
classe.
Style
classe.
Comme une classe d'école.
Voilà, au pluriel. Actuellement, Classe a 60 membres, à peu près.
Donc, c'est des membres individuels ou comme vous parlez de la LDH où il y a également des...
Non, ce sont des membres individuels. La LDH est représentée au CA de Classe. On compte environ une trentaine de personnes qui sont actives sur le terrain, donc dans l'accompagnement des enfants et des familles. Le public touché par notre association, donc ce sont des familles qui demandent la scolarisation pour leurs enfants, qui vivent en habitat précaire, c'est-à-dire dans un bidonville, dans un squat, dans une voiture, dans une tente, à la rue, sous un porche, sous un pont. Ouais.
Et comment vous arrivez à aller vers eux, à les repérer
Alors, dans la mesure où on existe depuis 10 ans, nous sommes connus. Donc, en général, c'est les personnes qui nous contactent en disant « Je connais quelqu'un qui est dehors, qui a des enfants, ou j'ai de la famille qui vient d'arriver, il faut les aider à mettre leurs enfants à l'école. » On peut être contacté par des travailleurs sociaux, quelquefois, par des écoles. Et puis le hasard des rencontres, circulant.
Parfois certaines personnes qui rencontrent des familles, qui essayent de trouver une association qui s'en occupe ou qui nous connaissent et qui nous font signe.
Votre action se fait sur quel
territoire ? Sur toute l'agglomération lyonnaise.
Toute l'agglomération lyonnaise. Et donc aujourd'hui, vous êtes en contact avec combien de familles ?
Alors,
à peu près.
C'est très variable. Disons que ce qu'on suit en général, pour situer, c'est de l'ordre de 300-400 enfants chaque année. Sur l'ensemble de ces 300-400 enfants, il y en a 200-300 qui auront été scolarisés, voire un peu plus. Quand on dit scolarisés, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès à l'école à un moment ou à un autre, ça peut être toute l'année, comme ça peut être quelques jours, en fonction, malheureusement... Très souvent, c'est les expulsions qui sont le gros problème et la période de rupture.
Vous arrivez des fois à les perdre, à ne pas les retrouver
Forcément, on ne sait pas où ils vont se cacher. Un exemple tout récent, le 13 septembre, il y a eu une évacuation importante au transbordeur. Il y avait 200-300 personnes, avec un grand nombre d'enfants scolarisés, voire plutôt en train d'être scolarisé. Et suite à l'expulsion, on a perdu un grand nombre de familles. Et il y a des familles qu'on vient de retrouver pas plus tard que lundi, dans un nouveau squat, enfin qui existe sans doute depuis plus d'un mois, mais bien caché.
Voilà, comme souvent c'est des personnes cachées, donc vous disiez quand même que depuis 10 ans vous étiez connu, mais il faut dire aussi que vous avez leur confiance aussi.
Ah oui, enfin, comme on est relativement connu, dès qu'on arrive sur un terrain où il y a plusieurs familles, en général ils nous connaissent. Ou alors on parle de l'un ou de l'autre de l'association et ils nous connaissent et souvent ils nous disent ah ben, tiens, il y a cette famille. Enfin, quand on les connaît, souvent ils se débrouillent un petit peu à scolariser leurs enfants et ils nous disent ah ben, il faut aller voir la famille à côté, là il y a des enfants à scolariser.
Alors, si ces familles ont besoin de nous pour scolariser les enfants, alors que normalement, bon, tout le monde a le droit et la possibilité d'aller inscrire son enfant à l'école, d'une part, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas le français, qui éventuellement ne maîtrisent pas non plus l'écrit, donc vont avoir des difficultés avec les démarches administratives. Et quand ils vont se présenter en mairie, on va leur demander un certain nombre de papiers pour s'inscrire, papiers qu'ils n'ont pas. Alors qu'en fait, au regard de la loi, ces papiers ne sont pas obligatoires. Pour inscrire un enfant à l'école, il suffit d'avoir une pièce d'identité et de prouver qu'il dort, qu'il vit sur la commune. Mais il n'a pas du tout besoin d'une quittance de loyer ou d'une facture, etc. Mais si la famille se présente toute seule à la mairie, on va lui demander ses papiers, elle va dire je ne les ai pas, et quelquefois elle va repartir en disant bah, en fait je ne peux pas l'inscrire à l'école. Donc c'est pour ça que les familles qu'on accompagne sont dans la grande majorité des familles d'origine étrangère et en particulier de Roumanie. Pas seulement.
Oui, est-ce qu'il y a une diversité ou des parcours
différents? Oui, disons qu'il se trouve qu'un grand nombre sont d'origine roumaine, mais c'est parce qu'on les rencontre plutôt, ces familles. Mais dans le parcours, on a aussi des Bulgares, des Moldaves, des Russes, des Tchétchènes, des Arméniens, des Marocains, des Congolais. Enfin, il y a beaucoup de nationalités. C'est un peu fonction de qui on rencontre, de qui nous appelle pour nous dire ben, on connaît telle famille. Pas plus tard qu'hier, on m'a dit qu'il y avait une famille albanaise qu'il fallait essayer de scolariser. J'ai donné un certain nombre d'éléments pour aider la famille à les scolariser. Et puis, ben, s'il y a besoin, ils m'appelleront.
Donc, l'association fait une sorte de médiation entre l'institution, donc la mairie, mm-hmm. en l'occurrence, là, à ce niveau-là, et puis donc les familles. Et vous, comment faites-vous pour aller au-delà de la barrière de la langue? Vous avez des personnes qui vous aident à traduire ou ça se passe finalement
Sur le lieu de vie, il y a souvent plusieurs familles qui vivent ensemble. Et dans le lot, il y a presque toujours une personne qui parle suffisamment. Et puis, on peut se débrouiller avec très peu de mots quand il s'agit juste de donner un rendez-vous, bon, de se présenter en disant qu'on vient pour l'école, donner un rendez-vous à la mairie. Voilà, en très peu de mots, ça se fait. On n'a pas des conversations très, très élaborées, mais on n'a pas de gros soucis.
Non, on n'a pas d'interprète.
D'interprète.
Vous avez l'expérience en fait de la situation.
C'est vrai qu'aussi il y a l'expérience qui aide, voilà. Effectivement.
On connaît quelques mots clés dans quelques langues. Et...
Voilà. Donc votre première mission c'est d'accompagner dans cette démarche d'inscription et alors, par exemple, l'école, vous choisissez celle qui est la plus proche ou
C'est la mairie qui décide de l'affectation de l'enfant dans une école. Ensuite, on va aussi accompagner en général les familles à l'inscription à l'école. Et là, c'est le démarrage de tout un travail de médiation entre l'école et la famille. Parce que donc, si la famille ne parle pas très bien français, quelquefois ce sont des adultes qui eux-mêmes ont été très peu scolarisés, donc ne savent pas trop non plus comment fonctionne l'école.
Les horaires, voilà.
Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une sortie piscine, qu'une classe verte? Il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre tout de suite. Donc l'école a nos coordonnées. Et pour l'école, c'est rassurant aussi de savoir qu'elle a nos coordonnées, qu'on a un numéro de téléphone qui est peut-être plus fiable que le leur et qu'on maîtrise le français. Donc on va se faire très souvent l'intermédiaire entre l'école et la famille.
Donc parce que suivi, nous, on ne s'arrête pas à l'inscription, ça continue.
Non,
dans
non,
le
non,
temps.
Ça continue. parce qu'on se rend sur le lieu de vie. On est une des rares associations qui interviennent sur le lieu de vie des familles. Donc l'école peut nous dire, mais je ne comprends pas là, ce qui se passe, je n'arrive pas à leur expliquer, ou je ne les ai pas vus depuis 3 jours, et nous, on va aller sur le lieu de vie dès que possible et pouvoir résoudre la question. Ou...
Toute votre action, en fait, est sur le terrain, que ce soit juste, enfin, au moment de... avant l'inscription à l'école... pour aider effectivement dans toutes ces démarches au moment de l'inscription même dans l'école et ensuite sur le suivi scolaire finalement.
Ah oui, c'est entièrement sur le terrain. Comme on dit, notre bureau, c'est l'ensemble des squattés bidonvilles. On a une multitude de bureaux. Mais c'est vrai que c'est indispensable d'aller sur le terrain. Ça permet de pouvoir échanger, de comprendre un petit peu la situation. Et puis, parfois, de partir du terrain avec la famille, et d'aller dans les différentes démarches. Parfois, il est difficile de leur donner un rendez-vous en dehors du lieu de vie, parce que c'est quand on ne se comprend pas bien, il vaut mieux partir ensemble. Ça permet aussi à la famille de connaître le parcours,
en général, l'environnement,
d'être capable de refaire le parcours toute seule après. Donc c'est...
Parce qu'il va y avoir d'autres démarches ensuite. S'il y a une inscription en cantine, par exemple, après il y a un certain nombre de démarches administratives, on va pas rentrer dans le détail, mais
j'imagine qu'il y a aussi une aide à la scolarité, parce que après il faut quand même avoir le matériel.
Oui, alors les écoles aident beaucoup à ce niveau. Oui. C'est vrai que nous on essaye de fournir un petit peu aussi. On intervient surtout sur le transport scolaire, puisque les lieux de vie sont souvent éloignés des écoles, surtout après une expulsion. Tous les enfants qui ont besoin de prendre un bus ou métro pour aller à l'école, on leur fournit un abonnement qu'on va recharger tous les mois tant qu'on suit la famille. Donc ça représente notre plus gros budget.
Et vous avez des enfants de toutes les tranches d'âge ?
De 3 ans à 17 ans.
17-18 ans.
De quel âge, pardon ?
3 ans à 17
ans. Donc, en fait, ça couvre l'école primaire et le collège.
Le collège et le lycée.
Donc, avec des besoins différents, avec des organisations différentes.
Voilà,
donc, à chaque fois, il faudrait expliquer...
On a parlé que d'inscription en mairie. Quand l'enfant est d'âge collège, c'est différent. L'inscription ne passe pas par la mairie. Donc, c'est encore toute une procédure qui est compliquée aussi. Et là, on est obligé d'accompagner les familles.
C'est vrai que c'est important, votre idée d'aider au transport en commun, puisque en général, ces personnes, effectivement, ce sont des enfants de squat, c'est dans le titre de votre association, donc avec des logements précaires qui ne sont pas forcément stables. Donc c'est important qu'effectivement, lorsqu'une inscription a eu lieu et que les enfants puissent continuer à aller à l'école où ils étaient inscrits.
Oui, tout à fait, d'autant plus que l'école, c'est souvent le premier lieu où la famille a été accueillie. Avant, en général, ils ne sont pas accueillis. Là où ils vont, en général, ils sont plutôt rejetés. C'est le premier lieu où ils sont accueillis, c'est le premier lieu où les enfants vont être accueillis, et ça reste un lieu de stabilité. Et les familles sont capables de traverser tout Lyon pour rester dans cette école qui les a accueillis pour la première fois.
Donc ça crée vraiment une transformation, pas seulement pour l'enfant, mais pour la famille aussi,
tout à fait, oui.
C'est un élément important pour ce qu'on appelle l'intégration dans le milieu où ils se trouvent.
Tout à fait, oui. C'est clair que les familles, une fois qu'elles ont une accroche dans une école ou dans un collège, elles vont faire tout ce qu'il est possible de faire pour y rester.
Et il y a des effets boule de neige, c'est-à-dire que d'autres familles aussi, avec un effet d'entraînement, vont aussi scolariser leurs enfants, les enfants qui y vont à plusieurs ou...
Oui, enfin... Depuis qu'on suit les familles, effectivement, au départ de l'association, enfin, j'y étais pas, mais il semblait que les familles pensaient que c'était pas possible d'être inscrit à l'école, comme le disait Blandine au début. Quand on leur demande des papiers, qu'elles n'ont pas ces papiers, elles repartent en disant, c'est pas possible. Donc, elles pensaient que l'école n'était pas possible. Maintenant, elles savent que c'est possible. Donc, très souvent, elles vont nous demander de les aider pour les inscriptions.
Effectivement, ça joue quand même aussi sur les autres, de voir que l'autre famille qui est là depuis plus longtemps, les enfants vont à l'école régulièrement, que ça se passe bien, qu'ils sont bien accueillis, etc. Ça leur donne aussi La confiance pour le faire aussi. Et même à l'intérieur d'une famille, les familles qu'on connaît depuis des années, où peut-être le démarrage a été difficile avec l'aîné, où la famille avait du mal à faire confiance à l'école ou à comprendre. Par contre, les enfants qu'on suivit ont été mieux scolarisés et plus tôt, il y a une familiarité qui se crée aussi.
Mais ce qui veut dire, c'est quand même des familles qui sont toujours dans des situations précaires depuis des années, toujours dans des...
Oui, parcours d'insertion, c'est très long.
Donc finalement, l'école, c'est presque la seule chose stable aussi dans le cours du temps.
Oui.
Tout à fait, oui. Enfin, pour le parcours d'insertion, c'est souvent très très long, ça se compte en années. Il y a une étude qui a été faite sur une cinquantaine de familles, qui s'appelle Trajectoire, qui explique un petit peu la durée, et cette durée d'insertion, c'est quelques années, voire 10 ans, 12 ans. Enfin, on suit un certain nombre de familles, on constate qu'il y a quand même un certain nombre de familles qui arrivent à s'en sortir, mais c'est toujours au bout de plusieurs années d'efforts.
D'où l'importance que les enfants aient cette possibilité d'aller à l'école, plutôt qu'être abandonné pendant ces années ou de formation, enfin voilà, c'est très important pour leur
futur. Oui, parce que leurs parents ont un parcours très compliqué, mais si ces enfants sont scolarisés correctement, eux vont du coup être citoyens français, si c'est ce qu'ils souhaitent. Enfin, ça va être beaucoup plus facile pour eux, c'est évident. Sinon, on ne fait que reproduire le problème à la génération suivante.
Et l'inscription des enfants à l'école, c'est un droit. Enfin, c'est non seulement une nécessité, mais c'est un droit.
En France, oui, entre 6 ans et 16 ans, l'école est obligatoire. Donc, normalement, les familles doivent inscrire leurs enfants, mais l'État doit scolariser les enfants. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
C'est à la fois une obligation et un droit, en fait, pour s'intégrer convenablement dans une société où on vit, en fait. Quel que soit l'endroit où on vit, c'est à la fois une obligation, certes, mais c'est aussi une obligation et un droit.
Bien sûr, et puis pour le développement de l'enfant, sa santé...
Le Japon fait des automobiles et les US du R&B. La Suisse attire les comptes en banque. Les Anglais ont un humour exquis. Le Nicaragua produit la cocaïne et la revend au meilleur prix.
Alors ce morceau, Blondine ?
C'est un petit clin d'œil, un petit peu d'humour, parce qu'en dehors des inscriptions à l'école, on se retrouve à accompagner aussi les familles dans leurs démarches administratives de façon plus générale. Et les papiers s'accumulent, et ils nous montrent leurs classeurs avec tous les papiers rangés. Ils disent « Oh là là, la France, les papiers, et les photocopies !»
Puis c'est synonyme aussi d'école, les photocopies.
Donc on parlait de l'obligation scolaire, de l'obligation de l'État à scolariser les enfants.
Et vous disiez que ce n'était pas toujours le cas, donc est-ce que vous, même en tant qu'association qui est quand même rodée, qui connaît les droits et les défend, est-ce que vous heurtez à des difficultés, voire à des refus ?
Oui, il se trouve que presque chaque année, on a eu quelques mairies qui ont refusé. Donc il y a eu une période Saint-Priest, il y a eu Bron aussi, qui est pourtant une ville amie des enfants, où la mairie a complètement refusé pendant un temps.
Et sous quel motif ?
Il n'y a pas vraiment de motif, c'est simplement on n'a pas envie de scolariser, parce que les familles, normalement, vont être expulsées, donc en attendant l'expulsion, on ne les scolarise pas. Alors, en particulier à Saint-Priest, c'était en 2015, on a saisi le défenseur des droits, et le défenseur des droits vient de nous répondre tout récemment, et a écrit donc à la mairie, à la préfecture, à l'inspection académique, et il y a une conclusion qui est intéressante dans la décision. Donc il conclut qu'effectivement, il y a eu atteinte au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il conclut à l'existence d'une discrimination. Il rappelle au maire de Saint-Priest son obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de sa commune. Il recommande au maire de Saint-Priest de mettre en œuvre une procédure permettant que soit délivré au guichet un récépissé constatant la date du dépôt, parce qu'effectivement, il refusait, mais sans rien nous indiquer. Il rappelle aussi au préfet son obligation d'inscription scolaire des enfants en cas de carence constatée du maire dans l'exercice de son pouvoir de police. On avait effectivement prévenu aussi le préfet à l'époque. Il rappelle au directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône qu'il peut procéder à la scolarisation temporaire des enfants en l'absence d'inscription scolaire par la mairie.
C'est-à-dire que l'académie peut affecter un enfant dans une école, même si la mairie a refusé.
Tout à fait. Même un directeur d'école peut accepter un enfant directement. Seulement le directeur d'école dépend de la mairie. Pour lui, c'est souvent difficile et délicat. Mais ça peut arriver qu'un directeur prenne en charge directement l'enfant. Donc c'est pour dire qu'effectivement, malheureusement en France, il existe encore des mairies qui refusent des scolarisations, ce qui est complètement illégal.
On a entendu les noms. Et avec les écoles, là, vous avez toujours de bonnes relations ?
Ah oui, l'accueil dans les écoles est toujours très 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 agréable pour les familles. Bon, il y a toujours... On pourrait toujours trouver quelques cas exceptionnels, mais l'accueil est toujours très, très, très bien, très agréable. Une prise en charge des enfants, de leurs conditions de vie. C'est vrai que pour les écoles, c'est pas simple d'accueillir un enfant quand il arrive en CM1, CM2, alors qu'il n'a jamais été scolarisé. Mais il y a toujours un accueil... très positif.
Moi, je suis frappée très souvent quand je fais un accompagnement sur une première inscription. Je ressens ce que ressentent les parents, qui est le respect qu'on leur témoigne. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans cette école, le directeur ou la directrice dit « Bon, on va faire l'inscription, asseyez-vous dans le bureau. » Et ils sont vraiment traités comme n'importe quel parent, même s'ils dorment dehors, même s'ils ne parlent pas français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur apparence ou leur condition de vie. Et vraiment, à chaque fois, je le ressens. Les parents, tout d'un coup, ils grandissent. Ici, je suis respecté, je suis comme n'importe quel parent, et effectivement, ça sera le cas par la suite.
Qui explique cet attachement à l'école. Et c'est le premier lieu donc, où ils ont été accueillis, c'est le premier lieu où ils ont envie de rester, même s'ils ont besoin de parcourir tout Lyon pour
Et c'est vrai que ces familles ont peut-être aussi fui des endroits où on les discriminait. Il n'y a pas simplement des migrants économiques, il y a aussi des migrants parce qu'ils sont discriminés dans leur propre pays. Donc c'est important de leur témoigner du respect, tout simplement.
Puis même en France, là où ils sont, je pense qu'il y a plein d'endroits où ils ne sont pas forcément très bien accueillis.
C'est clair.
Dans des démarches administratives ou...
Oui, quand on les accompagne dans des démarches administratives, par contre, on constate très souvent qu'ils ne sont pas regardés comme les autres. Et que quand on les accompagne, le professionnel va s'adresser à nous et va être gêné de regarder la personne qui est la personne concernée. Et le fait qu'on soit là, du coup, c'est comme si l'autre personne n'existait pas et c'est très...
Ouais,
enfin, c'est très choquant pour nous et c'est évident que c'est très choquant pour eux.
Et ils le ressentent tout autant qu'ils ressentent l'accueil dans l'école, ils ressentent ce rejet, malheureusement, trop souvent.
Alors, c'est une question de formation, je pense aussi que les personnes qui les accueillent mal, c'est parce qu'elles sont mal à l'aise, elles ont... je pense qu'au niveau de leur formation professionnelle, il y a quelque chose à faire.
Sans doute.
Et dans ces autres types de démarches, vous avez des partenaires où on fait des relations avec, vous parliez de travailleurs sociaux tout à l'heure, ou avec des institutions ou d'autres associations?
Alors sur les lieux de vie, il y a deux autres associations qui sont très présentes, enfin surtout Médecins du Monde au niveau de la santé. Donc là on travaille beaucoup avec eux. Il y a l'ALPIL qui accompagne beaucoup les familles dans l'accès au logement.
Il faut rappeler ce que c'est.
Association lyonnaise pour l'insertion par le logement, que nous avions invité il y a déjà quelques années à la radio aussi.
D'accord.
L'ALPIL.
Et puis, il y a les travailleurs sociaux, que ce soit Maison de la Métropole ou bien au niveau scolaire sur la ville de Lyon, ou collège.
Enfin, au niveau des écoles à Lyon, il y a une assistante sociale, donc il y a ce contact aussi avec les assistantes sociales. Il y a aussi les CCAS, les centres communaux d'action sociale.
Donc il y a les institutionnels, CCAS, travailleurs sociaux, et puis il y a d'autres associations avec qui vous êtes amenés à travailler. Donc on a dit Médecins du Monde,
l'ALPIL. Ensuite il y a Resto du Cœur, Secours Catholique, plusieurs associations d'ordre plus humanitaire avec lesquelles on travaille aussi.
Et puis après, donc tout l'accompagnement des familles, pour que la scolarisation se passe au mieux, c'est essayer d'accompagner les familles dans leur démarche côté hébergement, avec l'ALPIL, avec la maison de la veille sociale, avec appeler le 115, l'hébergement d'urgence. Et puis on peut aller parfois, mais quand on a un peu de temps, jusqu'à aider les familles à s'inscrire à Pôle emploi quand elles ont l'autorisation de travailler, pour pouvoir avancer progressivement dans les démarches. Ça peut être aussi apprendre le français, donc trouver des cours de français, ce qui n'est pas toujours très facile, puisqu'il n'y en a pas beaucoup.
Il faut rappeler que ces familles sont des Européens, donc il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas forcément la démarche de demandeur d'asile, etc. Là, souvent, ce sont des personnes qui...
Oui, alors historiquement, quand on a commencé en 2006, c'était presque uniquement des personnes de Roumanie, je pense, et Bulgarie, donc effectivement des Européens. Maintenant, on travaille avec un petit peu plus de nationalité, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la demande d'asile. On n'est pas une association d'aide juridique. Donc on peut accompagner les familles dans leur démarche administrative d'insertion en France. On ne va pas les accompagner dans leur demande d'asile s'ils ne sont pas européens.
Ce n'est pas du tout notre domaine de compétence. Chacun son domaine.
Oui, il y a déjà beaucoup à faire.
Et sur le côté vraiment école, là aussi, vous avez des...
Donc on travaille avec la direction départementale de l'éducation nationale, qu'on appelait avant l'inspection d'académie. Donc on a des contacts très réguliers, soit sur des cas particuliers de difficultés d'affectation, justement de déplacement d'enfants, retrouver l'école qui convient, etc. Et puis, d'une façon générale aussi, essayer de réfléchir à la meilleure prise en charge possible de ces enfants. Parce que c'est un autre de nos soucis, c'est la prise en charge des enfants à partir de 12 ans au niveau collège et lycée. C'est encore assez très insuffisant.
Oui. Disons que au niveau collège, il y a quelques années, il manquait beaucoup de place, il y a eu des efforts qui ont été faits. Malheureusement, ces efforts actuellement sont à nouveau insuffisants. Il n'y a pas assez de place actuellement. On a quelques exemples d'enfants qui se sont inscrits le 12-13 octobre. Et on nous a dit aujourd'hui encore, il n'y a pas de place pour eux. Donc ça fait au bout d'un mois et demi, ils attendent. Et le jour où on va leur dire, maintenant tu pourras aller dans tel collège, ils vont peut-être avoir pris d'autres habitudes, et puis...
voire changer de lieu de vie,
entre-temps, etc. Donc c'est, pour ces enfants, ça reste un gros problème. C'est donc ce problème d'affectation, manque de place, et puis une autre difficulté, c'est des enfants qui, de par leur vie, ont une expérience presque d'adulte pour certains, et qui vont se retrouver avec des enfants et avec un type d'enseignement qui correspond plus à des enfants pré-ados, ados. Et il y a un décalage très important.
Oui, qui doit grandir avec l'âge en plus,
voilà.
Effectivement.
Donc, l'inspection académique, la DSDEN, réfléchit dans ce domaine, mais pour le moment, ça reste encore un problème important. D'autre part, au niveau de l'association, on a beaucoup travaillé pour les enfants plus jeunes. Au niveau lycée, on en a encore pas mal. Au niveau collège. Par contre, côté lycée, on a beaucoup moins d'enfants parce qu'effectivement, là, c'est au-delà de 16 ans. L'obligation scolaire n'a plus lieu d'être. Et c'est très difficile d'avoir des places, même s'il en existe quelques-unes quand même.
Et on arrive à avoir des parcours quand même des enfants qui ont vraiment continué, qui ont pu aller du primaire au collège sans...
On a failli venir à 3 parce qu'on a proposé à une jeune de nous accompagner, mais je vois qu'il n'y aurait pas eu de micro pour elle.
On serait débrouillé.
Bon, c'est une jeune qui est arrivée à l'âge collège, mais qui a dormi pendant un certain temps avec sa mère et deux sœurs dans une voiture, ou trois sœurs. Et qui a fini par obtenir un hébergement d'urgence, mais elle a été énormément accompagnée justement par le collège et les services sociaux du collège, et qui est maintenant en CAP cuisine, et qui a un discours très très positif là-dessus, en disant mais moi de toute façon je voulais réussir, je voulais faire des études et je vais pas m'arrêter là et je vais continuer, et d'accord je dormais dans une voiture mais ça m'empêchait pas de travailler à l'école, etc. Après c'est tous des cas individuels, on peut pas généraliser, comme dans n'importe quelle population il y a des enfants qui réussissent mieux à l'école que d'autres, il y a aussi des parents qui ont eux-mêmes eu un parcours scolaire qui fait qu'ils savent mieux accompagner leurs enfants. Je pense que c'est vrai qu'on a, les enfants qu'on connaît depuis la création de l'association, petit à petit ils arrivent à l'âge du lycée. Après, je dirais que souvent le parcours scolaire se stabilise quand le logement se stabilise. C'est quand même assez évident. Donc la plupart des familles qu'on connaissait il y a 10 ans, maintenant, ont eu accès à un logement. Ça peut être un logement temporaire ou un logement social. Et du coup, la scolarisation se stabilise et ces enfants continuent et vont au lycée, mais on ne les suit plus. Nous, on continue avec ceux qui sont dehors. Donc, malheureusement, voilà.
On perd pas leurs traces, mais on n'a plus le temps d'aller les voir. Et eux sont heureux de nous voir.
C'est par hasard qu'on en croise dans la rue. On dit oh, comment ça va? Oh, ça va très bien.
Et... Ouais. Oui, enfin, ils n'ont plus forcément besoin de votre soutien.
Et non.
Donc,
Je pensais plus passer du primaire au collège. Si ce collège, ça devient compliqué. Déjà, c'est compliqué, je pense, pour n'importe quel enfant. Ça change beaucoup. Mmh. Mais si en plus, on n'y a pas accès tout de suite, on se retrouve avec une nouvelle rupture, on prend l'année, l'année scolaire en cours, c'est des obstacles supplémentaires pour des gens qui ont déjà eu des défavorisés dès le début dans cette insertion.
On peut avoir forcément des espaces aussi où on peut travailler sa scolarité. C'est difficile quand on n'a pas de lieu
pour faire ses devoirs,
ou se sentir en confiance. C'est l'importance du logement.
On se retrouve dans une baraque qui fait quelques mètres carrés à 5-6, avec un grand lit qui va... Il n'y a pratiquement pas de table, parfois il n'y a qu'une bougie, c'est difficile de
non, c'est clair qu'il n'y a pas de... Il n'y a absolument pas la place, ni l'espace, ni la tranquillité pour faire des devoirs, tant qu'on n'est pas dans un logement stable.
Ouais. On parlait de réussite, ça me fait penser à un livre qui s'appelle « Je suis tzigane et je le reste », qui est une jeune Rome qui a fini major à la Sorbonne. Donc peut-être on en lira une petite conclusion enfin.
Oui, ça serait bien, tout à l'heure, après une autre pause musicale peut-être.
Charlie, Bubamaru, Moise, Arese.
Donc c'était
Kusturica, le chat noir chat blanc, donc un petit clin d'œil à la musique tzigane, puisque, alors on l'a peut-être pas abordé, mais là, une grande partie des familles qu'on suit sont de culture rome. Et si elles viennent en France, c'est aussi parce que la population rome est encore très discriminée, en Roumanie notamment, et en particulier au niveau de l'école. Donc si beaucoup de parents n'ont pas été scolarisés, c'est parce qu'en Roumanie, ils ont échappé à la scolarisation, qui est pourtant obligatoire comme partout. Et ils viennent aussi en France parce qu'ils souhaitent une scolarisation pour leurs enfants, et ils savent que ça sera difficile en Roumanie, où ils vivent dans le même style de conditions, dans des bidonvilles, mais souvent éloignés des villes, avec pas de transport, et puis des difficultés d'accès à l'école, comme les autres.
Et tout à l'heure, vous disiez que vous étiez une soixantaine de membres, donc 30 vraiment actifs sur le terrain. Mais vous avez aussi évoqué que vous suiviez quand même plusieurs centaines d'enfants chaque année. Ça a l'air d'être énorme. Comment vous arrivez à faire ça? Est-ce que c'est que des membres d'associations bénévoles? Vous avez des salariés? Vous évoquiez aussi les abonnements de transport que vous payez. Comment vous avez aussi des ressources? Vous êtes aidé par certains partenaires institutionnels dont vous parliez ou...
Alors, on est uniquement des bénévoles, il n'y a aucun salarié, puisqu'on n'a aucun financement par aucune subvention, ni rien. On fonctionne uniquement avec les dons, avec ce que les bénévoles apportent, et puis tous les soutiens extérieurs. Les seules possibilités que l'on a.
Et donc, si on veut... Ou venir vous donner un coup de main en tant que bénévole ou un coup de main financier, on peut vous...
Vous êtes les bienvenus.
Vous contacter comment?
Alors, on a un site classe, donc CLA2SES069.blogspot.fr. Mais si vous tapez classe 069, vous nous trouvez. C'est vrai que c'est un accompagnement qui demande du temps, qui demande surtout de la disponibilité en journée pour accompagner les familles dans leur démarche. Donc là, on n'est pas très nombreux à être disponibles en journée. On est quelques-uns à y passer beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont commencé à accompagner une famille et puis qui ont gardé le lien et qui accompagnent la famille depuis des années, du coup, dans leur démarche d'insertion, qui continuent à suivre les enfants, à faire du soutien scolaire.
Donc vous faites aussi du soutien scolaire d'une manière organisée ou...
Le soutien scolaire fonctionne une fois que la famille est stabilisée, dans un minimum un hébergement temporaire. Sur un squat ou bidonville, les conditions sont... Enfin, on essaye à l'occasion, mais les conditions ne sont pas correctes. En dehors de cet accompagnement qui demande pas mal de temps, de disponibilité en semaine, on organise aussi des ateliers peinture, par exemple, quand il y a un lieu où vivent pas mal d'enfants, et c'est le cas en ce moment dans le
9e. C'est pas forcément dans les écoles.
Non, sur le lieu de vie. Actuellement, tous les mercredis après-midi, il y a un atelier peinture sur un terrain dans le 9e. Et là, c'est l'occasion aussi pour des bénévoles de venir, de rencontrer ces familles, de passer un bon moment avec les enfants, sans avoir la contrainte des démarches administratives plus.
Et c'est peut-être aussi un bon moyen de valoriser aussi la culture de ces familles. Elles ont des choses aussi à...
C'est une façon de rentrer en contact qui est très agréable et qui permet de casser les préjugés et de se rencontrer, quoi, de se découvrir et de créer des liens. Et c'est toujours des bons moments.
Ça y est, Blandine a parlé de la peinture. Il y a aussi, à certaines occasions, les accompagner à la piscine. C'est aussi des bons moments passés avec eux. Ça peut être aussi différentes
sorties.
Activités culturelles, entre autres avec une association Culture pour tous, qui permet justement d'avoir accès à des billets pour ces jeunes.
Pour des spectacles.
Pour des spectacles, voilà. Et qui sont de très bons spectacles. Et ça permet justement de leur faire découvrir autre chose, de faire voir qu'ils sont... Enfin, qu'ils ont le droit à la culture comme tout le monde.
Et ça, ça change le lien. Moi, je me rappelle d'avoir été... d'avoir emmené une famille au théâtre, donc avec un billet de culture pour tous, une famille que je connaissais bien dans l'accompagnement scolaire, et de me retrouver assise dans la salle de théâtre à côté d'eux, avec toute la population du théâtre, de gens bien... J'ai moi-même eu un autre regard sur eux, alors que je les connaissais depuis longtemps, mais jamais on s'était retrouvés ensemble dans un théâtre. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses très importantes à faire.
Oui, d'ailleurs, tu oublies de dire qu'à un moment, une personne d'à côté a demandé à un des enfants, ou je ne sais qui, est-ce que c'est possible de garder mon sac ?
Pendant que je vais aux toilettes.
Aux toilettes.
Voilà.
La vie normale.
Une vie normale avec des personnes normales. Voilà, et puis aussi des enfants qui ont besoin de s'amuser, de dessiner, de faire des choses. Ce sont des gens normaux qu'il faut accompagner parce qu'elles subissent tant de discrimination, même ici. Il faut quand même dire aussi que les populations roms aujourd'hui sont particulièrement discriminés encore.
Malheureusement, par certains discours politiques en plus, qui arrangent pas les choses.
Est-ce que justement, dans vos activités, vous avez aussi une part un petit peu de veille réglementaire pour vraiment faire respecter l'accès aux droits, ou aussi de... Alors, j'utilise le terme plaidoyer, qui est peut-être un grand mot, mais voilà, aussi de faire... Là, vous disiez que vous aviez écrit au défenseur des droits.
C'est arrivé plusieurs fois qu'on interpelle le défenseur des droits, effectivement.
Oui, là, on a parlé juste d'un cas, mais on a eu d'autres exemples, effectivement.
On a interpellé maintes fois la préfecture, même le président de la République, il n'y a pas si longtemps.
Ah oui, j'ai eu ça sur votre site. Alors dites-nous, expliquez-nous et surtout racontez la phrase, la fin du courrier qui semble quand même être assez... c'est ce qu'on a le... pour dire les choses. Vous ne l'avez pas sous les yeux.
Je vais essayer de se retrouver là.
Donc vous avez écrit au président de la République.
C'était suite à l'expulsion des familles donc, qui vivaient près du transborder. Donc des familles où il y avait déjà plein de démarches entamées, de scolarisation, etc. Et l'évacuation de ce terrain, on l'a trouvé très violente, avec notamment la démolition des habitats, donc des cabanes qui avaient été construites depuis des mois par les familles, en petit à petit installant un intérieur aussi confortable que possible, en faisant une cabane qui protège de la pluie, du froid, avec de l'équipement pour se faire à manger, etc. Et donc cette destruction très violente par des bulldozers. Et c'était juste au moment où on parlait des cyclones, et on a vu donc en même temps à la télé les images de destruction par les cyclones, et en même temps on avait cette photo de cabane aplatie par le bulldozer, et on n'a pas pu s'empêcher de faire un parallèle donc dans un courrier.
Je dirais même que c'est un ami qui a vu une des photos que j'avais prises, qui m'a dit mais c'est Irma. Et ça a donné l'idée justement de faire un peu ce parallèle et d'écrire au président de la République.
Et donc le président de la République nous a répondu qu'il avait bien noté et qu'il transmettait notre courrier à la préfecture. Et la préfecture nous a répondu en nous disant que bien sûr on ne pouvait pas comparer le démantèlement de ce camp, comme il dit, à un cyclone, que les familles avaient été prévenues et que c'était tout à fait normal de détruire les cabanes, que les familles avec des enfants de moins de 3 ans avaient été hébergées, puisque c'est en général les seuls qui ont droit à un hébergement, alors que la loi dit que toute famille mise à la rue dans le cadre de destruction d'un bidonville, enfin toute personne, doit se voir proposer un hébergement d'urgence. En plus, ces familles avec des enfants de moins de 3 ans ont été hébergées pendant 10 jours, ensuite étaient remises à la rue. Et le courrier donc de la préfecture se termine par « Il apparaît souhaitable que le monde associatif que vous représentez puisse apporter à ces familles l'aide nécessaire dont elles ont besoin. » je ne sais pas très bien comment il faut prendre ça. Donc voilà, les familles ont été mises dehors, aucun hébergement n'a été proposé, toute leur... Le peu qu'ils avaient a été écrasé par un bulldozer, ils n'ont même pas pu le récupérer. Et il faudrait que le monde associatif maintenant leur apporte l'aide nécessaire.
Voilà. Qui n'a pas déterminé. Mais on voit quand même de plus en plus une externalisation de choses qui relèvent de la... des politiques publiques qui sont faites par les associations. Alors, généralement, elles sont payées pour ça.
C'est le désengagement de l'État, proprement dit. Au moment où quand même on dit aux associations débrouillez-vous, en même temps en ce moment les associations elles sont aussi quand même maltraitées puisqu'on parle d'un grand plan association, mais en attendant on a supprimé un certain nombre de subventions, on supprime quand même, enfin vous n'êtes pas subventionné, mais d'autres associations ont vu aussi leur crédit coupé, des emplois aidés supprimés, donc c'est un peu fort quand même de dire de la part quand même d'un représentant de l'État, bah finalement débrouillez-vous, c'est votre rôle. Mais non, c'est pas votre...
En plus, notre rôle, c'est...
L'État a signé un certain nombre de conventions, de protection de l'enfant, etc. Donc, c'est un peu...
C'est... En plus, il vous donne un rôle... Vous représentez le monde associatif.
Et notre, la mission qu'on s'est fixée, nous, c'est de faire respecter le droit à la scolarisation. On n'est pas non plus une association humanitaire d'aide aux familles en détresse. Donc, on veut bien aider l'État à appliquer le droit
un rôle d'alerte avant
à la scolarisation. On aide les communes à repérer les enfants qui sont à la rue pour qu'ils soient scolarisés, puisque c'est théoriquement les communes qui sont responsables de ça. Donc ce boulot, on le fait, on veut bien le faire. Mais si on commence à nous empêcher de le faire par notamment la remise à la rue des familles qui cassent la scolarisation et toutes les démarches d'insertion...
Oui, enfin, pour revenir par exemple sur cette fameuse expulsion du 13 septembre, juste un exemple d'une famille avec 5 enfants, dont le dernier est né au mois d'août, donc il avait un mois au moment de l'expulsion. Comme l'a dit Blandine, la préfecture a annoncé qu'elle hébergeait toutes les familles avec des enfants de moins de 3 ans. Elle a oublié de préciser qu'au bout de 10 jours, eh bien, elles se sont retrouvées à la rue. Donc, au bout de 10 jours, cette famille avec le bébé de 2 mois s'est retrouvée à la rue. Ils ont essayé de se retrouver un lieu. Effectivement, ils ont trouvé un autre lieu avec une caravane. Et le 4 octobre, à nouveau, un bulldozer est venu à tout recasser. Et depuis, on a perdu cette famille. Il y avait un bébé, comme je le disais. Il fêtait ses 2 mois, 3 jours après l'écrasement de la caravane.
En fait, dans ce courrier, on a l'impression que toute la partie, là, toute la première partie, en dehors de la dernière phrase, là, c'est complètement désincarné. Hein. C'est-à-dire que c'est une application d'une décision administrative, sans doute. On supprime... voilà. Et la dernière phrase, elle se veut sans doute un peu plus humaniste, mais elle reporte finalement de la responsabilité de l'humain aux associations, aux bénévoles. C'est ça que ça veut dire, cette lettre.
Ah bah, c'est que les conséquences de cette décision administrative... vous incombe, selon les courriers.
Voilà. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé des expulsions, juste pour redire quand même cette importance dans la négative, dans le parcours de famille. J'ai connu un groupe familial, depuis 2013, j'ai compté à plus de 14 expulsions. Malgré ces 14 expulsions, il y a une des familles qui s'en est sortie, puisqu'actuellement elle a son appartement à Rieux depuis 2 ans, grâce au travail qu'a pu trouver le papa. Il y en a d'autres qui arrivent à essayer de s'en sortir, mais ça reste quand même pour les enfants des traumatismes qui sont terribles. Et puis, donc le
mais
préfet...
ils tiennent bon, ils continuent à aller à l'école,
ce groupe familial actuellement, il est assez réduit, mais tous les enfants que je connais et que j'ai encore repérés vont à l'école actuellement. Il y a 2 collégiens, 2 élémentaires et 2 maternelles qui vont à l'école. Il y en a... juste à l'école, juste à côté d'ici.
C'est-à-dire c'est vraiment important. Hein. Toute votre action est importante. On va rappeler, là, il est 57. On va rappeler...
Donc on va rappeler votre site.
Oui, Blandine, vous vouliez lire quelque chose.
C'était si on a le temps.
Oui, allez-y, allez-y.
La citation donc d'Anina Tchouchou dans la fin de son livre, voilà, qui est donc passé par les bidonvilles et qui est sorti major à la Sorbonne. Les derniers mots de son livre. Je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir fait quitter mon pays et de m'avoir permis de construire mon avenir ici, en France. Alors je vous en supplie, quand demain, dans la rue, vous croiserez une dame au dos courbé, affichette en carton sur les genoux, quand vous verrez qu'assise à côté d'elle, il y a une petite fille aux longs cheveux noirs, ne la jugez pas, ne l'insultez pas, ne la frappez pas. J'ai vécu cela, j'en suis marqué et humilié à vie. Mais aujourd'hui, devant moi, c'est la porte de la Sorbonne qui vient de s'ouvrir.
Donc ça veut bien dire qu'il faut donner sa chance à tout le monde. Tout le monde a droit à sa chance. Hein. Ouais. Donc, on peut trouver le site classe...
classe069.blogspot.fr.
De toute façon, on le rappellera aussi sur notre site et le blog sur lequel on peut télécharger l'émission.
Voilà. Donc, c'est important de vous soutenir financièrement. Les abonnements TCL, c'est important. On l'a bien vu. C'est important, c'est cher. Donc, il faut vraiment vous soutenir. On peut vous soutenir par ailleurs, bien sûr, en participant à des actions. Mais donc.
Voilà. Puis tout don permet aussi de développer des ateliers peinture ou d'autres activités ou quelques fournitures.
Voilà, donc l'émission a été enregistrée, donc on le mettra sur le site, sur le blog.
Sur le blog de l'émission Grain de Sable sur Radio Canu et voilà. Sur le site d'Attaque.
Voilà.
Et on vous laisse tout de suite avec le Canu Info. Le grain de sable.